Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au Centre Social de la Paz. Alors, on avait dit dans la cour du Centre Social, mais en fait, la canicule nous a forcé à nous rapatrier dans le hall. Pour ce plateau radio qu'on a intitulé « Racisme invisible, racisme ordinaire et dans le Royan », ce plateau radio, il fait écho à cette exposition sur le racisme invisible, l'ordinaire dans la vallée, produite par Radio Saint-Féréol, qui a été mise en place vendredi dernier, je crois. Enfin, en tout cas, c'est tout récent dans le centre social à Saint-Jean, et qui a déjà un peu circulé sur le Royan parce qu'elle a été mise au collège. On va avoir l'occasion d'en reparler. Et elle a été mise aussi au collège de La Chapelle en Vercors. Donc voilà, elle continue son itinérance ici. Et puis, elle a eu beaucoup d'autres itinérances. Et donc, ce plateau radio animé par Radio Royan-Vercors, mais en partenariat avec Radio Saint-Féréol. Et j'ai le plaisir d'accueillir Charlie, qui est... je te laisse te présenter, tiens.
Eh bien, du coup, merci pour l'invitation. Effectivement, on s'invite entre radios. Moi, je fais partie de l'équipe donc, de la radio, de Radio Saint-Féréol, mais aussi plus particulièrement l'équipe de l'exposition. On devait être deux ce soir à venir représenter cette exposition avec Fatou, qui ne peut pas venir. Donc je vais présenter un peu plus tard le projet.
Et on a aussi demandé à quelqu'un d'ici aussi, parce qu'on s'est dit, bon, bah, le racisme dans la vallée, on va en entendre pas mal parler à travers cette exposition, mais ça nous semblait important de faire un écho avec ici. Et du coup, j'accueille Johanna, et tu peux dire en quel nom tu parles.
Bonjour, merci de l'invitation inopinée. Donc oui, je m'appelle Johanna, j'habite dans le Royan depuis... une petite année maintenant, c'est relativement récent. Et je suis là en partie pour parler d'événements récurrents qu'on organise dans le coin, qui s'appellent les Saisons décoloniales. On y reviendra.
Oui, et puis moi aussi, j'en fais partie de cette organisation des Saisons décoloniales qui parle des questions de racisme. Donc on parlera de tout ça au cours de ce plateau. On se donne une heure et quart. Peut-être une heure et demie si vous avez d'autres questions pour parler de ces questions de racisme parce que ben voilà, c'est des questions qu'on a envie de faire exister sur notre territoire. Et peut-être, voilà, on passera aussi des extraits à la fois de l'exposition, à la fois d'un moment qu'on a eu au collège où j'ai fait un petit reportage, j'ai eu l'occasion de suivre Charlie et Fatou dans leur animation, pour que vous entendiez aussi un petit peu les réactions des élèves. On fera une pause musicale, et puis on aura aussi d'autres extraits à vous passer pour rythmer un peu cette heure et demie de discussion. Et peut-être pour commencer, ben ce serait bien de revenir sur la genèse de cette expo, qui est assez récente et pourtant qui a pas mal déjà circulé. Charlie, si tu veux nous dire un peu comment tout ça est né et d'où ça vient.
Oui, alors déjà peut-être que je peux commencer par me situer. Moi, je suis une personne parce qu'on
ah oui, on a dit qu'on
est à la
ça.
Radio, donc moi je suis une personne blanche qui ne vit pas le racisme. Mais dans l'équipe de l'expo, on est une équipe mixte du coup de personnes qui vivent le racisme et d'autres qui ne le vivent pas. On part du principe que tout le monde est concerné, donc c'est important que voilà tout le monde prenne en main ce sujet-là. Et le point de départ du coup de l'expo, c'est une personne du coup de la radio, Leïla Marie-Leïla, qui a eu cette idée de parler un peu de ce racisme qu'elle vit et que d'autres vivent. Dans la vallée de la Drôme, qui a été appelée le racisme ordinaire, parce que c'est le racisme, on va l'entendre dans les témoignages du quotidien. Voilà, c'est le racisme un peu plus insidieux, parce qu'il n'est pas nommé, mais en tout cas, il génère forcément de la violence auprès des personnes qui le reçoivent. Et donc, du coup, des financements ont été trouvés pour pouvoir lancer un projet de récolte de témoignages audio, à la base. Et donc, c'est Fatou qui a été rencontrer des personnes qui vivent du racisme dans la vallée de la Drôme, et leur a posé les mêmes questions. Donc c'était un peu le protocole d'avoir à chaque fois la même liste de questions pour avoir leur réaction, très tournée évidemment sur du vécu, pour que ce soit très concret, qu'on puisse bien comprendre ce que ça veut dire que d'être une personne racisée qui, dans son quotidien, peut être amenée à vivre du racisme un peu tout le temps, un peu partout. Et donc ces personnes qui habitent tous dans la vallée, mais qui ont des âges différents, qui ne vivent pas forcément dans les mêmes villes et villages, ont toutes accepté de témoigner et ensuite d'être prises en photo. C'est Fatou qui s'occupait de récolter ces témoignages audio. Moi, j'ai fait la partie photographie avec leur accord, bien sûr, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, c'est aussi très exposant de témoigner et aussi après d'être visibilisé. Donc je pense que c'est aussi un beau cadeau qui est fait de leur part d'avoir accepté de se rendre visible et de parler de leur intimité, surtout sur ce type de vécu. Et donc, ce projet est né en 2024. Et depuis, avec la petite équipe, donc il y a aussi Romain, il y avait Pauline à l'époque. Voilà, on est une petite équipe de 4-5 de la radio. On essaie de la diffuser un maximum partout, dans tous les lieux possibles, pour qu'elle puisse être écoutée et qu'on puisse aussi l'accompagner d'ateliers pour pouvoir parler de ces sujets-là avec des profils de tout âge et de tout, toute expérience. Donc là, ça fait depuis 2024, ça fait 2 ans qu'elle tourne, enfin 1 an et demi. Là, on est très contents parce que ça va faire un gros mois et demi dans le Royan, puisqu'elle était dans 2 collèges et maintenant elle est au centre social ici. Et elle a été dans des médiathèques, dans des cafés associatifs, dans des collèges, dans des lycées. On aimerait bien aller aussi dans des écoles, parce qu'on considère que c'est vraiment des outils de prévention qui permettent vraiment de peut-être aussi éviter de provoquer des situations ou des comportements de racisme. Et que bon, là, notre énergie, on a envie de la mettre surtout sur les publics plus jeunes, parce que plus tôt on en parle, peut-être plus tôt on prévient le racisme.
Est-ce que tu as envie de dire des choses plus largement sur le racisme ou d'abord on écoute un medley ? Est-ce que peut-être on commence là-dedans ?
Ouais, alors du coup, le medley, c'est une partie, donc c'est un montage qui a été fait des petits bouts de chaque capsule. Donc ça ne vous empêche pas d'aller écouter les capsules après. Et pour ne pas oublier, je vais le préciser dès maintenant. Donc l'expo, elle est disponible ici pendant 2 semaines. Si vous avez l'occasion de venir, moi je pense que c'est toujours une expérience plus riche de venir écouter puis de voir les portraits ici dans un centre social ici, ou enfin, de manière générale, de voir l'expo. Mais comme on est conscient que c'est aussi beaucoup de capsules, il y a 8 témoignages. Enfin, en tout cas, il y a 8 capsules avec parfois plusieurs personnes qui témoignent. On a aussi un site internet qui s'appelle Racisme Invisible. Radio Saint-Ferréol, avec toutes les capsules qui sont en ligne. Donc si vous voulez commencer par écouter des capsules pendant l'expo, puis continuer chez vous, vous pouvez le faire à votre guise, quand vous voulez.
Et là, on écoute 5 minutes pour aussi déjà donner la place et la voix aux personnes concernées par cette exposition. Enfin, en tout cas, on est tous et toutes concernées, mais qui ont accepté de livrer leur témoignage. Et puis comme ça nous donnera aussi des fils à tirer pour la suite de la discussion.
Le racisme, c'est quand on te voit pas en tant que personne. À chaque fois, tout ce qu'on me dit, ça renvoie d'où je viens, à ma couleur de peau. Que surtout, ça remet beaucoup en question tout ce que je peux dire ou faire. Minimiser ta capacité de penser, de parler, de faire. Même le fait d'être joyeux, au fait que ça renvoie toujours à du fait que tu es noir, tu viens d'un pays où il y a du soleil, c'est normal que tu sois joyeux, que tu sois lumineux. Même des choses en fait, qui sont plus ou moins positives, en fait, ça revient quand même que ça te renvoie de ta couleur de peau, d'où tu viens, de positive ou négative, de ces choses-là, ça renvoie quand même au racisme, que ce soit du racisme mignon, comme si on veut dire, mais...
Pour moi, être minorisé, en tout cas le prendre sous cet angle-là, c'est le fait de nous invisibiliser. C'est-à-dire que y a une espèce de norme, et ce serait d'être à la marge et de faire comme si nos expériences, nos histoires, elles comptaient moins que d'autres.
Pour moi, c'est quand tu dois faire encore plus d'efforts pour te fondre dans la population et masquer tes différences. Et c'est quand les personnes racisées sont tellement rares que tu les remarques et que ça, moi, je les remarque et ça me fait à chaque fois quelque chose, quoi. Ça me fait du bien.
L'équivalent de ce que les gens pensent par le mot racisme, c'est plutôt pour moi, c'est de l'intolérance. Après, on peut être humain, mais intolérant par rapport à notre manière de, enfin, ou l'autre manière de faire de la personne ou d'un groupe, la culture, les croyances, les idéologies, voilà. J'ai toujours lié cette réaction, parce que c'est une réaction d'intolérance, et elle est toujours liée à une certaine ignorance.
Que moi, de mon côté, je peux comprendre que d'être ignorant, mais par exemple, je ne peux pas trop comprendre de rien y faire. Il faut se documenter ou juste traîner avec des personnes comme ça et juste leur demander c'est quoi que tu vis dans ton quotidien, là, ce qu'on fait, en fait. Et peut-être, d'une part, la personne pourra se sentir plus comprise ou au moins lui poser la question. Ça, c'est agréable. Au moins qu'on te pose la question, tu vois, de qu'est-ce que tu vis. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens, enfin, quand t'as pas été dans une situation, tu peux pas savoir ce que l'autre vit, donc même au niveau plus global.
Après plusieurs années, enfin voire plusieurs siècles d'esclavage, le racisme reste encore ancré dans la société et qu'il faut en parler et qu'il y a du travail à faire pour que les choses bougent.
Dans la Drôme, on dit beaucoup ça, il faudrait que j'aille travailler sur moi pour régler ce problème-là. Mmh. Alors pour moi, ce n'est pas un problème individuel, le racisme, c'est bien un problème collectif et sociétal et que c'est à regarder ensemble, quoi, plutôt que individuellement. L'autre fois, je vais à Intermarché avec un pote, donc c'est un pote blanc, et on va acheter du fromage pour faire une raclette. Et donc c'est moi qui m'adresse à la personne qui vend du fromage, et elle regarde par terre, elle ne me répond pas. Une première fois, je demande du fromage, elle ne me répond pas. Donc je redemande, et elle ne me répond pas, elle regarde le sol. Je fais à mon pote, bah, vas-y, adresse-toi à elle, parce qu'elle ne me parle pas, quoi. Et donc le pote s'adresse à elle, et elle lève la tête, et elle le regarde, elle lui dit, oui, vous, je vous sers.
Quand j'arrivais ici en France, j'ai rencontré un homme après le décès de mon mari. Hein, donc j'ai rencontré un homme et lui, il me traitait tout le temps des nègres. Mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Et c'est bien après que je me rendais compte que en fait, j'étais moins que rien pour lui.
Après, de la génération de mes enfants, ce n'est pas pareil. Mais de ma génération, tu dis que tu es infirmière, on te regarde avec des gros yeux. On se dit, non, montre-moi ton diplôme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es pas infirmière. C'est pas possible. À la limite, auxiliaire de vie. Allez, avec la VAE, aide-soignante. Parce que t'as pratiqué pendant 30 ans. Voilà. Mais non. Donc, voilà, il y a... Ouais. Donc, on est armé. On est armé. Et moi, je fais tout pour justement... me leur montrer que du haut de mes 1m59, de ma peau bien noire charbon, eh ben, j'ai un cerveau comme tout le monde, j'arrive à utiliser mes neurones et j'ai réussi à me construire une petite vie qui est agréable, qui est sympa. Et puis je m'entoure de gens qui ont une ouverture d'esprit. C'est tout. Ou en tout cas qui vivent les mêmes choses que moi. Parce que le racisme s'attaque à tous les niveaux. Hein. Nous, là, on parle de couleurs, mais après, il y a les handicapés, il y a ceux qui sont gros, il y a ceux qui sont petits, il y a aussi tout un racisme.
Et voilà. Pour rentrer dans la thématique, peut-être avant de continuer, on pourrait se demander qu'est-ce que ça nous a fait d'entendre ça. Je ne sais pas, Johanna, peut-être c'est la première fois que tu entends tout ça. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà entendu ces extraits, puis du coup, ça me fait réagir. Mais je me dis, est-ce que toi, tu as envie de réagir à ça ?
Non, peut-être déjà, comme Charlie l'a fait juste avant, me situer moi aussi. Je suis une personne concernée au sens où... je suis métisse de mère blanche et de père de Madagascar. Donc ce qui m'a fait écho avec ce que je peux vivre dans les extraits, un peu dans le premier extrait où la personne parle de racisme mignon, ça va être une expérience de l'exotisation, quoi. Les gens me disent « Ah, tu viens d'où ?» En plus, le métissage fait que c'est toujours un peu mystérieux d'où est-ce qu'on peut être originaire. Et qui est une expérience pas foncièrement désagréable, mais qui amène à se sentir toujours un peu pas comme tout le monde. Et oui, je dirais que c'est ça, peut-être, ce qu'on peut vivre comme racisme ordinaire, qui n'est pas forcément des violences... volontaire, mais une sensation d'être d'autant plus dans un milieu rural comme ici, d'être très vite reconnu et vu quand on n'a pas la même couleur de peau que la majorité. Voilà.
Ouais, sachant que ben, on va y revenir sur les saisons décoloniales qu'on organise ensemble. C'était le premier thème de nos saisons à l'automne. C'était visible, invisible, et notamment en milieu rural. Et on écoutera après le témoignage d'une autre personne de notre collectif qui a raconté une anecdote qui s'est passée dans le Vercors. Aussi pour donner à entendre ben, c'est quoi d'être hyper visible, qu'on vit moins peut-être quand on est en ville. ça c'est sûr. Ce racisme mignon et ce truc de « il faut travailler sur soi dans... » Est-ce que c'est propre à la vallée de la Drôme, tu dirais, Charlie? Enfin, je me disais, tiens, c'est marrant d'utiliser ce vocable racisme et mignon, c'est comme si ça n'allait pas ensemble, quoi.
Alors, je ne sais pas si je suis vraiment absolument pas bien placée pour en parler, parce que je ne vis pas de racisme, mais de ce que je comprends, moi, du racisme mignon que Clémence nomme, c'est que c'est du racisme pas mal intentionné. Et je pense que quand on parle de racisme, très souvent, en tout cas dans l'imaginaire, on imagine de la violence, des insultes, quelque chose d'agressif. Alors que si on touche les cheveux de quelqu'un, si on lui demande ses origines, comme tu l'as nommé, Johanna, enfin, voilà, il y a plein de façons en fait, de renvoyer une personne à sa couleur de peau, à sa religion, à d'où elle vient, dans son quotidien. Et en fait, du coup, c'est potentiellement plusieurs fois par jour qu'une personne racisée va avoir ses remarques. Parfois, c'est peut-être OK, mais souvent, ça ne l'est pas forcément. Et la personne qui fait ces remarques ne se rend pas forcément compte, d'où le racisme mignon. Parce qu'on a l'impression parfois même de faire un compliment, de s'intéresser. Et dans la vallée de la Drôme, je pense qu'effectivement, on a cette culture de très humaniste. Moi, j'aime les humains. Je ne vois pas les couleurs. On fait la danse africaine avec un grand A, donc on invisible le fait que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent avec plein de pays qui ont des cultures propres et donc des danses propres. Voilà, donc je pense que c'est très à l'œuvre ici et c'est aussi ça que voulait montrer cette exposition avec tous ces témoignages.
Oui, puis d'ailleurs c'est le titre que vous avez choisi, invisible et ordinaire, les deux vocables rendent saillant ce truc, sans mauvais jeu de mots sur la vallée de la Drôme, ou pas fait exprès.
Ou concret.
Oui, en fait c'est plein de remarques insidieuses, qui se veulent pas méchantes, et qui pourtant créent un climat de toute façon t'es pas tout à fait comme nous quand même, donc ce « eux et nous » qui est souvent nommé. Et je me suis dit qu'en écoutant les extraits, que peut-être il fallait définir le racisme aussi. Enfin, justement, là, qu'est-ce que, d'ailleurs, même quand vous êtes venu là ce soir à un plateau radio sur le racisme, qu'est-ce que vous aviez derrière la tête et qu'est-ce que nous, on entend peut-être, je ne sais pas si tu avais des définitions, Charlie, ou tu veux qu'on les pose.
Enfin... Moi, je n'ai pas mes définitions à moi. Mais en tout cas, je pense qu'il est important de nommer, c'est que le concept de race biologique n'est pas. A été invalidé il y a fort longtemps, et que la race est vraiment c'est un concept social. On a socialisé la race pour créer des hiérarchies. Et tout à l'heure, Fatou, qui n'est pas là, m'a partagé un texte que j'aimerais bien vous lire peut-être plus tard dans l'émission sur le concept de blanchité qui va avec l'idée de la suprématie blanche, que du coup la race blanche serait une race supérieure qui autoriserait justement à avoir certains comportements différenciant, rabaissant, agressif avec des personnes dites d'une autre race, qui encore une fois est une race sociale donc inventée par nous-mêmes.
Ça me permet de rebondir sur quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est-à-dire me situer moi-même, parce que moi j'ai ce qu'on appelle un passing blanc, dans le sens où je m'appelle Céline, donc en fait je suis visible comme une personne blanche, mais en étant juive et en étant de culture et d'identité juive, j'ai vécu le processus de racialisation, et c'est là où on voit que ça fait vraiment partie de la race sociale plutôt que de la race posée comme naturelle, et que en tout cas il y a des choses avec les personnes racisées. Alors je vis pas des choses sur la question de la visibilité. Je ne vis pas d'antisémitisme, on pourrait dire, frontal. Mais par contre, il y a des blagues, il y a des choses qui se disent sur les personnes juives et sur l'antisémitisme, qui sont profondément antisémites. Et il y a cette différence qui fait partie de mon identité, qui s'est construite toute ma vie. Donc en fait, c'est là où on voit à quel point c'est un processus de racialisation qui se fait culturellement, quoi. Voilà, c'était pour comme ça, on s'est toutes les trois situées, mais au fur et à mesure. est-ce qu'il y a des choses encore à dire, peut-être sur l'exposition? Pourquoi est-ce que pour vous c'est important qu'elle soit présente dans les établissements scolaires, dans les centres sociaux? Comment ça a été accueilli depuis que vous l'avez mettée en place?
Alors, c'est difficile de savoir comment toutes les personnes ont reçu cette exposition, parce qu'on n'est pas là à chaque fois pour recueillir leur retour d'expérience, mais en tout cas de manière générale elle est plutôt bien accueillie, on a des retours assez positifs sur le fait qu'elle existe, que c'est un outil de pédagogie qui est nécessaire même s'il n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on aime bien l'accompagner aussi des missions ou d'ateliers pour pouvoir en fait créer des discussions. Moi je pense que tous ces témoignages c'est vraiment des points de départ de comprendre des situations pour avoir envie d'aller plus loin, réfléchir, Je pense que du point de vue des personnes blanches, réfléchir à des situations où on a pu nous-mêmes provoquer du racisme. Et puis du point de vue des personnes racisées, sûrement de se dire, effectivement, c'était du racisme, et de pouvoir avoir des points de départ pour pouvoir aussi en parler, des deux côtés. Donc nous, c'est vraiment cette idée aussi de plus on sait, plus on va faire attention, et plus on en parle, plus c'est aussi un sujet qui va arrêter d'être tabou, parce que je pense que, en tout cas, Fatou m'avait partagé ça quand on en a discuté, que il y a aussi beaucoup de culpabilité, en tout cas quand des personnes racisées vont montrer une situation en disant ça c'était un comportement raciste, ça va provoquer beaucoup de fragilité, ce qu'on appelle la fragilité blanche, de culpabilité, et pas forcément une transformation vers du mieux. Donc voilà, l'idée c'est de dire peut-être accepter le fait qu'on a tous intériorisé en nous du racisme, que c'est le point de départ, que c'est ça le postulat de départ, et comment on fait pour justement travailler dessus et essayer chaque jour d'être un peu moins raciste quand on est une personne blanche, parce qu'on est né dans une société raciste. En France particulièrement, on est vraiment des héritiers de la colonisation. Donc ça, c'est OK de dire qu'on a en nous des biais racistes, et c'est OK de se dire que on va essayer d'en avoir moins.
Et peut-être pour appuyer un peu sur ce contexte de fragilité blanche, c'est vraiment ce sentiment de, au lieu de, si on nous fait remarquer qu'on a eu une parole ou qui, encore une fois, est du racisme mignon ou qui se voudrait pas méchant, si une personne nous relève le comportement ou la parole, c'est d'abord un des trucs qu'on peut se dire, c'est d'abord l'accueillir, de se dire OK, et pas tout de suite se braquer dans de la culpabilité. Je suis une mauvaise personne, je pensais que j'étais une alliée, je pensais que j'avais travaillé là-dessus. Pourtant, je suis de gauche. C'est de vraiment réfléchir à ça, quoi.
Oui, au même titre qu'on a tous des biais sexistes, LGBT-phobes, et que c'est bien de pouvoir, en effet, savoir recueillir, en tout cas accepter qu'on va pouvoir nous confronter là-dessus et qu'on va pouvoir peut-être aussi s'excuser quand on a un comportement raciste et essayer de ne pas reproduire ce comportement la fois d'après.
On est là aussi pour parler de la spécificité du Royan, parce que, OK, on n'est pas dans la vallée de la Drôme, mais on pourrait faire exactement la même exposition, peut-être, avec des personnes qui pourraient témoigner de ce qu'elles vivent ici. Et peut-être, pour introduire ça, j'avais envie de passer la situation dont je vous parlais d'une des collègues qui s'appelle Mbalou, qui habite à Pont-en-Royan et qui témoigne d'une situation qu'elle a vécue, qui fait partie avec nous de l'organisation des saisons décoloniales.
Si je me sens plutôt visible ou invisible, et la racialisation. Je crois que ce qui est un peu particulier, c'est que je suis arrivée dans le Royan via une tournée de mon spectacle qui traite de questions de racialisation. J'ai été fort identifiée via ça, en tout cas dans un certain réseau, mais un réseau qui est plus large que le réseau que je fréquente là, parce que j'ai fait des représentations auprès de publics plus larges, tu vois, sur les berges de la Bourne. Enfin, il y a pas mal de gens, par exemple, de Pont, qui ont vu ce spectacle, qui sont des gens avec qui je traîne pas particulièrement, mais en tout cas qui avaient identifié, qui m'ont identifié comme une personne communiquant autour des enjeux du racisme. Ce qui a été positif et négatif, dans le sens où les personnes déjà... ça m'a permis de créer du lien avec les personnes concernées et ou alliées. Ça a permis de créer de la discussion avec des personnes pas très concernées et pas très alliées. Ça a créé des moments aussi de grande gênance avec des gens pas du tout informés de ces questions-là ou plein de biais racistes, quoi. Mais voilà. Mais après, par ailleurs, je pense que quand je me suis installée dans le Royan, j'ai un peu appliqué quelque chose un peu inconsciemment mis en place toutes ces dernières années avant le Royan, ou ce qui sont des années où j'ai habité dans des zones de ruralité profonde, où j'étais la seule personne racisée, et aussi dans des contextes de vie où j'étais vraiment de loin la seule personne racisée, notamment quand j'habitais en itinérance en roulotte. Enfin, c'est vraiment un endroit où on n'imagine pas une personne racisée, mais bon. et du coup, je crois que pour survivre psychiquement à l'effet que ça crée chez les gens, je me suis un peu construit une carapace de c'est un non-sujet. Et je n'en ferai pas un sujet, ce qui est assez paradoxal parce que par ailleurs je traite de ce sujet-là dans le spectacle, mais du coup j'ai un peu scindé quoi. J'ai un peu l'espace du spectacle où je traite de ça et plein d'autres espaces où je décide que c'est un non-sujet pour mon repos personnel. Et voilà, et du coup je pense que les premières années dans le Royaume, j'étais un peu sur ce mode-là. Et en fait, il s'est passé un truc qui a quand même vraiment fissuré toute cette affaire, qui est que j'ai été agressée verbalement, mais assez violemment, par un type à Vassieu-en-Vercors, un soir, il y a 2 ans, qui, entre autres choses, m'a traité de sale noire, m'a demandé de rentrer chez moi, etc., etc. Voilà, c'était très, très violent, et du coup, j'ai porté plainte contre cette personne. J'ai été surprise parce que j'ai reçu un gros soutien de certaines personnes à Vassieu, notamment les voisins qui avaient entendu, qui sont sortis directement me demander comment ça allait, et me dire qu'ils voyaient qui était la personne. Du coup, quand je leur ai dit que je portais plainte, ils ont accepté d'être témoins. Il y a le maire de Vassieu qui m'a appelé pour me dire que, pour m'encourager à porter plainte et me dire qu'il ferait en sorte que le dossier passe pas, finisse pas dans un vieux placard de la gendarmerie, quoi. Et donc, le gars a été convoqué au commissariat et au tribunal et condamné à une amende. Au moment où j'ai reçu la convocation, je me suis rendu compte que ce gars avait le même nom de famille que le fermier à qui je louais le pré où j'avais mon cheval à Saint-André-en-Royans. Et du coup, ça m'a fait un peu rentrer dans un truc de... du coup, j'ai regardé sur Facebook, j'ai vu que ce mec était ami, que le fermier était bien ami avec un gars qui avait le nom de mon agresseur. Donc je me suis dit, c'est sûr, c'est une grosse famille du coin. J'avais aussi appris que l'agresseur en question, ses parents ont une ferme là-haut à Vassieu. Donc je me suis vraiment dit, waouh, je suis rentré dans les histoires de village, en fait, de territoire, de famille. Et pour le coup, je suis hyper identifiable. C'est-à-dire que si jamais ce gars-là, mon agresseur se retrouve à râler au repas de Noël sur le fait que il y a une meuf qui a porté plainte contre lui. En fait, en 2 secondes, tous les gens de sa famille qui me connaissent savent que c'est moi parce que en fait, il n'y a pas 36 autres personnes métisses. Il y en a pas d'autres en fait dans le Royaume. Et donc du coup là, le truc de en fait, de l'hyper-identificabilité, ça m'a sauté aux yeux, ça m'a un peu fait bader. Après, pas plus que ça, parce que par ailleurs, je m'entends très bien avec le fermier chez qui est mon cheval, et que je me doute que plutôt il allait être de mon côté que du côté de son, j'en sais rien, neveu, cousin, ou enfin bref, le connard qui m'a adressé. Mais je sens que ça m'a quand même fait rentrer dans une petite psychose comme ça, moi j'ai quand même besoin de cet endroit là que je loue. En tout cas, toute cette histoire m'a quand même fait me dire que j'étais vraiment contente de connaître d'autres personnes racisées dans le coin, notamment Lucas, parce que en fait à ce moment là ça a été vraiment un recours, en fait, parce que je crois que c'était difficile de faire comprendre à d'autres amis ce dans quoi ça me mettait. Globalement, moi je trouve que, comme de manière générale dans la vie, le racisme ici en ruralité, il se traduit, à mon encontre, c'est-à-dire d'une personne circulant dans des cercles culturels et un peu urbain, mais traînant dans le Royaume, etc. Moi, je le sens surtout étant une meuf cis, dans une forte exotisation. Enfin, moi, c'est l'endroit où le racisme est quotidien, plus que dans des choses que j'ai pu vivre plutôt dans des contextes urbain où il y a un racisme différent, dans le sens où beaucoup plus nourri de clichés de cohabitation. Quoi. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de clichés de cohabitation parce qu'il n'y a pas de cohabitation, parce qu'il n'y a pas de personnes racisées dans l'Orient. Donc, il y a beaucoup plutôt le truc de l'exceptionnalité, tu vois, de genre... Et est-ce que je me sens à l'aise d'en parler de manière générale? Oui, je pense. Après, c'est un peu... Mais ça, c'est un peu général dans ma vie, que ce soit ici ou ailleurs. C'est à la fois, je suis à l'aise, à la fois... je sens que j'ai aussi une grande flemme, et que ça, c'est peut-être un truc qui est quand même spécifique au fait d'habiter en ruralité, que parfois je pense que j'ai plus la flemme qu'en ville, parce qu'en ville il y a plus d'anonymat aussi, donc en fait que je prenne la tête, que je bouscule un peu quelqu'un sur le fait qu'il a dit un truc qui n'était pas ok, bon ben je risque pas de le recroiser 3 fois par jour toute la semaine, quoi. Et là, en fait, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que, enfin là, je pense la dernière fois à quelqu'un qui est en plus quelqu'un que plutôt j'aime bien, et voilà, qui est d'une autre génération, un mec plus vieux, qui a fait une remarque vraiment débile sur sur le fait que ma fille avait, qu'il fallait qu'on lui offre des percus parce que effectivement elle a 1 an et demi, elle adore faire du bruit et taper sur des objets, et du coup il a dit ben oui, ça c'est parce que sa grand-mère vient de Guinée, elle a hérité du rythme guinéen, quoi, un truc comme ça. Et j'étais vraiment là genre je sais pas, parce que je pense qu'il y a un truc dans le fait de se confronter au quotidien aux gens où du coup ça te demande encore plus d'énergie, quoi, de pas être anonyme. Et après, bon, là en l'occurrence avec cette personne, je me suis aussi dit ça va, en fait c'est quelqu'un avec qui je communique, je peux communiquer, même si on est dans des mondes très différents. À l'occasion, je me poserai pour lui expliquer que il faut arrêter de dire que les noirs ont le rythme dans la peau, et genre même par extension pour cet enfant blond aux yeux bleus que j'ai produit. C'est vraiment très rigolo. Bref, voilà, donc ça je pense que c'est aussi un truc en fait qui est potentiellement plus confrontant, enfin confrontant différemment dans un contexte comme le Royan, qui est aussi un contexte où ça brasse beaucoup, on se croise beaucoup les uns les unes les autres, c'est des villages assez vivants, donc en fait je pense, contrairement à dans d'autres ruralités où tu peux être très isolé, là il y a un truc où on est aussi dans une grosse sociabilité.
Je sais pas qui a fait le montage, mais c'est coupé un peu à la machette, quoi. Et le son, elle fait un vocal sur son portable au bord de la bourne. Alors voilà, ça donne ce que ça donne, mais c'est aussi le Royan, ça. Juste pour vous resituer, cet extrait, ça fait partie d'un témoignage qu'elle a livré lors des premières saisons des Coloniales. Tu voulais revenir dessus ou c'était la journée qu'on avait appelée visibilité invisibilité, sur cette question de d'être la seule personne noire par exemple du village, ou en tout cas extrêmement visible. Et du coup des copines ont animé un atelier pour nous faire réfléchir à tout ça, et donc c'était à partir de plusieurs bouts là de ce témoignage là notamment. Donc elle parle de cette agression à Vassieux, mais aussi de choses qui nous concernent, parce que quand on est dans un village, effectivement on se croise tous et toutes plusieurs fois par jour, par semaine, et comment effectivement elle se dépatouille avec et on voit plein de mécanismes de protection, hein, qu'elle a, de ce truc de c'est un non-sujet, ou de c'est bon, ça va, je peux quand même discuter avec lui. Je sais pas si t'avais envie de réagir, Johanna.
Ouais, peut-être que ce que je peux dire, c'est que je me reconnais vachement dans l'histoire du non-sujet. Je pense pour deux. Enfin, il y a deux pistes d'explication à ça. C'est que, bon, déjà, je suis métisse et j'ai été élevée par ma mère blanche dans un milieu hyper blanc. Donc, du coup, c'est des codes que je maîtrise, on va dire. Et que, voilà, on m'a fait des blagues sur ma couleur de peau toute mon enfance, mais je trouvais que c'était marrant. Et puis l'autre... raison pour laquelle c'était peut-être un peu un non-sujet pour moi, c'est que j'ai vécu dans plein d'endroits en France, mais on va dire que les 15 dernières années, j'y vais dans des grandes villes, voire en fait, moi j'habitais à Paris juste avant d'habiter dans le Royan, dans le 18e arrondissement de Paris, qui est hyper cosmopolite, enfin un terme que j'adore vraiment. Et du coup, bon, j'étais une personne racisée parmi plein d'autres, j'en croisais tout le temps, et donc c'était pas quelque chose sur lesquels, enfin, je réfléchissais à ces questions-là, mais plus par rapport à mes origines familiales et tout ça, mais pas trop dans mon expérience du quotidien. Et c'est vrai qu'en arrivant dans le coin, il y a eu un peu, c'est un peu devenu pas forcément un sujet hyper prégnant, mais quand même, il y avait, ouais, ce que je racontais tout à l'heure, quoi, ce sentiment un peu d'exceptionnalité et de se sentir plus vu comme une personne racisée. Ce qui m'a amené moi à venir à la première édition des Saisons décoloniales, donc qui était sur le thème du visible, invisible, du racisme invisible et visible. J'y suis venue comme participante, enfin pas du tout, j'y suis venue comme
public.
Et en fait, ça m'a fait vachement de bien et je me suis justement, je pense, permis des choses que je me... Par exemple, le fait de rejoindre l'Orga et de m'investir dans cet événement que je ne me serais pas permis en ville parce que ce n'était pas un sujet pour moi et puis je me sentais quand même vachement moins victime de racisme que plein de gens que je fréquentais, notamment dans mon travail parce que je travaillais dans le social avec des personnes sans papier. Donc moi, j'étais là, bon, ouais, franchement, ça va bien, quoi. Pour plein de gens, je suis blanche, en fait. Et du coup, j'ai jamais été hyper militante dans les milieux antiracistes, même si j'allais à des événements, tout ça. Et je pense que finalement, la vie en milieu rural m'a permis de me sentir légitime à faire ça. Et aussi, il y a ce que dit un peu Mbalou, un peu cette interconnaissance et le fait qu'on c'est des villages hyper vivants ici où on se croise beaucoup. On n'est pas beaucoup à être racisés, mais on se connaît finalement quasiment toutes et tous. Et il y a solidarité et un partage de réalité qui se fait hyper facilement et qui permet et de se sentir un peu réconforté et aussi de trouver un peu le courage de donner de la voix aux personnes qui en souffrent peut-être plus que soi, organiser des événements comme ce qu'on fait avec les Saisons décoloniales. Je pense que j'aurais eu ni la légitimité ni le courage de le faire dans une grande ville, et ça, c'est aussi permis par le milieu rural et les potentialités du Royan, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on se disait un peu sur cette troisième édition là, où on se disait bah oui, en fait, peut-être qu'on se serait pas organisé ensemble autrement que si parce que la ruralité nous permet ça aussi. C'est pour voir aussi le bon côté du fait d'habiter dans ces villages et à la campagne. Et elle a dit le même mot que tu as dit tout à l'heure aussi. Elle a parlé d'exotisation. Et c'est un peu ce que tu disais aussi sur ce truc de bah voilà, l'anecdote sur le rythme dans la peau qui ne. Enfin, si on n'a pas déconstruit, on se dit c'est pas forcément méchant, mais voilà, si on n'a pas déconstruit cette idée-là, ou comme tu disais, la danse africaine, c'est des choses qu'on peut voir aussi dans le Royan encore. Je pense à certains chars du Corso, pour ne pas les nommer. Je pense à des choses qui se veulent être de la mise en valeur de certaines cultures, ou en se disant ah ben voilà, ça vient d'Afrique, donc. Mais en fait, ça reste un bain problématique et du coup, ça alimente des pensées racistes.
Et je pense aussi que dans la vallée de la Drôme, je ne sais pas si c'est aussi le cas dans le Royan. Il y a beaucoup de pratiques de développement personnel qui sont très liées à d'autres cultures que la culture européenne ou française. Mmh. Et donc beaucoup d'appropriation culturelle, des personnes qui aussi monétisent sans forcément expliquer le contexte d'où viennent certaines pratiques, qui sont des pratiques liées à des cultures, à des religions parfois. Et voilà, c'est beaucoup, en tout cas, c'est beaucoup présent partout. Et je trouve ça intéressant parce qu'on parle de développement personnel, donc on est là pour se développer, mais on parle absolument pas de racisme ou d'antiracisme ou de se développer pour aussi être capable de créer, de moins reproduire d'oppression. C'est plutôt se développer plutôt d'un point de vue très personnel pour aller mieux. Et alors je remets pas en question le fait que c'est bien d'aller mieux individuellement, mais du coup si c'est pour aller mieux peut-être en invisibilisant certaines cultures, en monétisant aussi des pratiques sans rien rendre aux personnes qui ont dont sont issues ces pratiques, bon là je me dis qu'il y a un petit truc un peu en décalage. Donc voilà, c'est aussi pour mettre un peu, se mettre face à ça et collectivement essayer de le travailler, de l'identifier. Et je vois que c'est un peu pareil chez vous, je ne sais pas comment ça se passe.
Oui, il y a pas mal de pratiques de ce genre-là aussi dans le Royaume, ça fleurit.
Des sudations, des...
Je pense qu'on est un peu moins doté que dans Crétois quand même, mais on voit quand même que globalement, beaucoup de gens qui vivent ici ou qui se sont installés dans le coin ont une image, une idée de... On est tous... On voit pas les couleurs, on est tous... On est tous
humaniste.
Égaux et qui part d'un plutôt bon sentiment, mais qui peut parfois... Enfin, je pense à un débat récemment sur le fameux groupe Signal Alter et Soroy en Vercors, où c'est parti en débat sur... Il ne faut pas utiliser le terme racisé parce qu'il n'y a pas de race.
Alors, pour resituer, parce que je vois des sourcils français, il y a un groupe Facebook, pour les personnes qui n'ont pas Facebook, qui s'appelle Alter Réseau Royan-Vercors, et un autre groupe qui s'appelle Alter Réseau Sud-Grésivaudan. Et c'est un espace où alors ça va de garde de chiens à vente de poules à communication sur plein d'événements. Et moi, j'avais mis la communication sur les saisons décoloniales. Mais comme je le fais sur... plein de choses, d'événements qui sont créés dans le Royan. Enfin, je veux dire, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et ça permet aussi, enfin voilà, de se rendre. Enfin voilà, c'est un espace de communication et de mise en réseau des personnes. Et effectivement, suite à cette publication sur de la troisième saison des Coloniales, il y a eu effectivement un débat. Alors j'avoue, je l'ai parcouru assez vite parce que ça m'a vite. Bref, il y a eu un débat comme on adore hein, sur les réseaux sociaux avec vraiment l'espace pour communiquer, mais autour, qui se voulait pas méchant. En plus, je pense que les gens voulaient pas être agressifs. Hein, voilà, et on était dans ce contexte de vous avez pas bien compris ce que c'est que le racisme. Je vais vous expliquer. Les races n'existent pas. Avec publication d'articles scientifiques, enfin, d'un philosophe ou je sais plus à l'appui, et que on crée le racisme en utilisant le terme racisé. Bah oui, c'est nous, les woke, qui créons les inégalités. C'est bien connu. Et donc voilà, avec des personnes qui commentaient en disant... mais ça me fait penser à une des phrases qui a été dite tout à l'heure sur... est-ce qu'une position juste, ce serait pas de dire qu'est-ce que tu vis dans ton quotidien, en fait ? De dire, en fait, qu'est-ce que tu traverses ? Par exemple, Balou, là, vous entendez son témoignage, ou Johanna, de dire, mais en fait, c'est quoi que tu vis dans ton quotidien et qui te. Tu rentres le soir chez toi, tu as vécu trois ou quatre fois ça dans ta journée et tu peux pas forcément en parler aux personnes blanches autour de toi parce qu'elles vont pas forcément comprendre, ou alors si, parce que c'est des alliés, mais tu es chargé de ça, quoi. Et qu'est-ce que ça crée comme climat ? Bon, voilà, c'était un débat. Comme vous voyez, mais ça montre ce truc-là que ça se veut pas agressif, ça se veut pas. Cette personne qui a publié cet article se sent, je pense, profondément humaniste, de gauche, progressiste. Enfin,
ouais, moi, je serais curieux de savoir dans la salle, on est quelques-uns qui se pensent racistes et qui se pensent absolument pas racistes. Je pense que c'est un peu dur de se penser raciste parce qu'on a toujours plus raciste que nous. Il suffit de mettre ses news et puis c'est bon, quoi. On se dit, oh, ça va. On est vraiment très loin de ça. Donc, en fait, si on se compare toujours au pire, c'est ça. Il y a toujours pire, déjà. Bon, là, j'ai pris ses news, c'est un exemple vraiment aux antipodes. Mais je pense que, vraiment, je le redis, hein, mais à repartir du postulat, que c'est peut-être OK de se dire qu'on a tous des biais racistes. Et il faut partir de ça parce que si on ne se pense pas raciste, on ne voit même pas qu'on génère du racisme. Pardon, du racisme. Et donc dans nos milieux effectivement un peu de gauche et ou militants et ou engagés dans les milieux d'accueil des personnes qui passent sur nos territoires qui n'ont pas de papier et qu'on va accueillir, voilà, on est des bonnes personnes parce qu'on prend soin, on accueille, on est plutôt des personnes qui avons envie de vivre ensemble. Donc voilà, donc c'est beaucoup de notions qu'on entend beaucoup, mais est-ce que ça veut dire, merci, ouais, par ailleurs qu'on ne génère pas du racisme malgré nous sans nous en rendre compte, ça c'est pas sûr. Voilà, et donc du coup, d'écouter tous ces témoignages, ça permet de se dire « Ah oui, c'est vrai, peut-être que ça, j'ai déjà fait de toucher les cheveux d'une petite fille métisse parce que je trouvais ça très joli. » Et en fait, dans son témoignage, par exemple, Iris, elle dit que parfois, ça lui va, mais parfois, ça la rend très triste et en colère.
Du coup, on va réfléchir à quel point on est raciste en écoutant une chanson. C'est le moment de la pause musicale. Non, mais je pense que c'est important de faire... Et encore une fois, pas pour cultiver la fragilité blanche dont on parlait tout à l'heure. C'est pas ça l'idée, se dire, oh, mon Dieu, j'avais pas vu. Mais c'est plutôt de dire, tiens, qu'est-ce qui me reste encore à travailler comme endroit, comme zone. Et bien sûr, on va, dans la deuxième partie, vous donner aussi des ressources de choses qu'on a envie de partager avec vous. Notamment un texte que Fatou nous a envoyé, puisqu'elle n'est pas là ce soir. Et aussi... tout ce travail de sensibilisation qui est fait auprès des jeunes, parce que l'idée, c'est pas, encore une fois, quelque chose de très dichotomique entre les gentils qui sont pas racistes et les méchants qui sont racistes, sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, c'est de complexifier un peu cette question-là. Et donc on écoute Pâté ni pâte de Charlotte Adigéry, qui est une chanteuse belge d'origine des Antilles.
Sentiu tutti, faut continuer to ni. Si ou qu'a sentiu tutti.
On est toujours dans le hall du centre social. On s'est rapatrié à cause de la chaleur. Pour ce plateau radio sur le racisme ordinaire, autour de l'exposition qui est accueillie pendant 2 semaines ici. Pour cette fin mai, début juin 2026, autour du racisme invisible, racisme ordinaire, enfin l'ordinaire dans la vallée, avec Charlie, créatrice, une une des membres de l'équipe de cette exposition de Radio Saint-Ferréol et Johanna qui est membre des Saisons décoloniales. Je vais y arriver, je commence à fatiguer, il fait chaud pour mon cerveau. On voulait entamer cette deuxième partie en lisant le texte que Fatou nous a envoyé avant de vous parler un peu des animations et des médiations qui ont été faites notamment avec le public jeune sur les questions de racisme.
Alors oui, c'est un texte, donc du coup c'est l'introduction d'une lecture spectacle qui s'appelle White Spirit, donc une introduction écrite par Marine Bachelot Nguyen, qui interroge la blanchité. White Spirit, tel est l'impulseur d'écriture proposé aux six autrices dont les textes se déclinent dans ce livre. White Spirit, une invitation à se confronter, poétiquement et politiquement, au problème de la blanchité dans ses manifestations multiples et complexes. À tenter de saisir et cerner l'esprit blanc dans ses métamorphoses et ses distillations multiples. En initiant cette commande d'écriture, j'ai dans l'idée de questionner la blanchité, les avatars de l'esprit occidental et de la domination blanche, dans leurs aspects intimes, concrets et évanescents, conscients et inconscients, toujours liés à la politique et à l'histoire. Et j'invite Karima Alcaraz, Panda Diouf, Marina Kalchevski, Essia Jaibi et Émilie Monet, autrices et femmes dont j'aime l'écriture et la posture au monde. Mais comment définir la blanchité? On peut le faire avec Claire Richard, autrice de l'enquête audio Blanc comme neige. Le mot blanchité est un néologisme pour traduire l'anglais whiteness. Étudier la blanchité, c'est toujours étudier le racisme, mais en déplaçant la focale. Au lieu de se pencher sur les victimes du racisme, on s'interroge sur la catégorie des personnes à qui ce système bénéficie. Il est important de rappeler que la blanchité n'est pas une couleur de peau. C'est une relation de pouvoir qui organise la supériorité et la domination des personnes considérées comme blanches. Au sens large, la blanchité désigne l'expérience du monde que font les personnes perçues comme blanches. Par exemple, ne pas faire l'objet de contrôle aux faciès, ne pas être discriminé sur la base de son patronyme ou de sa couleur de peau. La blanchité est proche du concept de privilège blanc, créé par la militante féministe et antiraciste Peggy McIntosh. La notion de privilège blanc a le mérite de nous ramener à des situations concrètes et permet de radiographier les avantages individuels et collectifs conférés par le fait d'être considéré comme blanc ou blanche dans la société. Certains théoriciens, théoriciennes, préfèrent parler de suprématie blanche pour mieux désigner le système global qui érige la blanchité en principe supérieur dans l'ordre social, politique et symbolique, découlant de l'impérialisme européen et de son hégémonie. On peut aussi évoquer l'ignorance blanche, théorisée par Charles W. Miles, ce biais cognitif qui passe par le déni de l'existence du racisme et de ses réalités, par l'oubli d'une histoire occidentale faite de conquêtes, de violences coloniales et esclavagistes, justifiées par les hiérarchies raciales. Des hiérarchies qui, malgré tous les principes démocratiques d'égalité, infusent encore les structures et l'organisation de nos sociétés contemporaines. Les personnes racisées en connaissent bien la charge puisqu'elles la subissent. Les personnes blanches peuvent se permettre d'y être aveugles. L'ignorance blanche n'est pas forcément volontaire, mais cette cécité est possible parce que la blanchité constitue une norme, un étalon dominant qui n'a pas l'habitude de se regarder dans le miroir. Alors que la blanchité européenne a cessé de vouloir classifier et décrire les peuples et les races entre guillemets « autres » pour mieux les exterminer et les dominer, essayer de nommer ce qu'est la blanchité, ce que sont et que font les blancs et blanches en tant que groupe social de manière anthropologique, sociologique et politique, peut venir heurter les concernés. Quand le vernis d'ignorance ou d'innocence blanche se fissure, déni, culpabilité, « white tears », qu'on peut traduire par
Les larmes blanches
s'invitent souvent à la table. La blanchité, le racisme, le white spirit ne sont pourtant pas des fardeaux qu'on devrait porter à l'échelle individuelle ou psychologique, mais qu'il faut aborder sous forme de responsabilité historique collective. Que l'on soit blanc, blanche, racisé ou dans l'entre-deux, que l'on vive dans le nord hégémonique ou dans le sud global, la blanchité et sa norme nous infusent, modèlent nos imaginaires, nos destins, nos inclinations, nos choix et nos modes de vie. Nous voilà aujourd'hui dans un monde assez angoissant, un monde où les idéologies fascistes et d'extrême droite gagnent du terrain et se ravivent dangereusement avec leur islamophobie et leur antisémitisme intrinsèque, leur discours postulant la supériorité raciale blanche et l'infériorité des populations immigrées. Un monde où l'impérialisme et le colonialisme s'intensifient, en Palestine et ailleurs, avec leurs corollaires génocidaires et d'anéantissement de cultures autochtones séculaires, et le blanc-seing du gouvernement attaché avant tout à leurs intérêts politiques et économiques. Un monde où le détricotage du droit international, l'amnésie historique et les mécanismes d'inversion bourreau-victime sont monnaie courante, ce qui nous plonge souvent dans une sidération paralysante. Pour reprendre souffle et espoir, redonner du sens à l'idée d'une humanité commune, aux idéaux de justice, d'égalité, d'antiracisme et de respect des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous devons affronter l'héritage de la blanchité et de l'impérialisme occidental, dans une introspection honnête, incluant nos propres réflexes, pratiques et préjugés, comme ceux de nos espaces de socialisation et de politisation. Avec les autrices de cet ouvrage, aussi différentes que soient nos histoires, nos origines ou nos conditions, je sais que nous partageons cette conscience et ces convictions, que chacune depuis son angle et son endroit peut révéler les manifestations multiples du white spirit, éclairer un ou plusieurs aspects du continent diffus et tentaculaire de la blanchité. À l'image du produit chimique, le white spirit est à la fois invisible et nocif, transparent et décapant. Envahissant et volatile, il diffuse et dilue son idéologie à grande ou à petite échelle, de façon grossière ou subtile. Le white spirit n'est pas hors de nous, comme une simple force extérieure oppressive. Il nous traverse et nous concerne toutes et tous intimement. Nous le respirons, nous en héritons, nous nous débattons avec lui. Il n'est nullement une essence, mais plutôt un processus. Alors parlons-en, interrogeons-le, invoquons-le, disséquons-le dans ses constantes et ses métamorphoses, affrontons-le et déplions ses sémantiques furieusement et joyeusement.
Merci à Fatou pour cet envoi de texte et merci à Charlie pour ta lecture. Comme vous voyez dans cette discussion, on essaie de à la fois convoquer des concepts parce qu'on en a besoin pour réfléchir et à la fois d'être très ancré dans des réalités matérielles, quotidiennes. Il ne suffit pas de dire racisme pour savoir de quoi on parle et toujours, encore une fois, de se demander qu'est-ce que les personnes vivent. Et c'est pour ça qu'on a choisi des extraits, mais aussi ce texte qui nous permet de donner une autre dimension, j'ai envie de dire. Et c'est aussi, j'ai l'impression, avec cette énergie-là que vous allez faire des médiations autour de cette expo, notamment autour du public jeune, comme on va le faire d'ailleurs demain. Demain matin, on voit tous les enfants du centre social, enfin qui sont à l'accueil de loisirs du mercredi, demain, et les ados d'Active Royan l'après-midi. C'est pour ça que ça nous semblait aussi important de faire un temps tout public ce soir. C'est à la fois mettre des concepts, mettre des mots, et à la fois, j'ai l'impression, partir de aussi ce qu'ils vivent. Pourquoi ça a été une évidence pour vous, pour l'équipe qui avait créé cette expo, de tout de suite accompagner l'expo et créer des animations autour de ça?
Je pense que ça, on l'a un petit peu dit au début de l'émission, mais c'est sûr que cette expo, c'est vraiment un premier pas ou un prétexte, en tout cas, pour des discussions. Je trouve que c'est un peu compliqué d'écouter des témoignages et de repartir seul avec ça après, sans pouvoir aussi échanger. Et du coup, en fait, c'est exactement la même chose qu'on fait avec les enfants et les adolescents, adolescentes. C'est, on reprend des capsules, on les écoute ensemble et après, on en parle. Et évidemment, après, on va convoquer des concepts. On va écouter des petits extraits, mais sur les préjugés, les stéréotypes, on essaie d'adapter à ce que ils et elles peuvent comprendre dans leur réalité, à leurs âges. C'est vrai que cette expo, pour le moment, elle est plutôt, c'est plutôt des témoignages d'adultes. Donc, on en parlera aussi, mais on cherche des témoignages aussi d'enfants. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, parlons-en, essayons de comprendre ces situations, essayons de comprendre ce qui se joue aussi pour nous individuellement et collectivement. Et je pense que dans des classes, c'est intéressant parce qu'il y a forcément du racisme à l'œuvre partout et donc est forcément au sein des classes, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Et du coup, d'arriver aussi, alors en n'étant pas les maîtresses, les professeurs, en étant un peu aussi des personnes extérieures qui amenons ces discussions-là, en tout cas, j'ai l'impression que ça génère des prises de parole, des prises de conscience, qui vont peut-être planter des graines pour, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, faire un petit peu plus attention ou se rendre compte que parfois, une blague qu'on pense être une petite vanne marrante, en fait, elle peut blesser parce qu'elle est raciste. Voilà, plein de petites situations, on va les reprendre ensemble, on va partir de leur réalité et puis on va en discuter.
Et on va écouter justement quelques paroles de jeunes d'ici, là, du Collège de Saint-Jean. Mais toi, en tant qu'intervenante, qu'est-ce que tu ressens, toi, dans ces animations? Qu'est-ce que ça te fait de, je ne sais pas, ce que disent les jeunes? Est-ce que tu as l'impression que ça les touche, ce qui percute? Ou justement, est-ce qu'ils restent dans un truc de « bon, bah, y a les méchants racistes et puis moi, ça va parce que je fais juste des blagues avec mes copains ». Est-ce que tu penses qu'ils saisissent l'enjeu?
C'est difficile à dire parce que c'est des interventions... moi, je trouve toujours trop courte pour aller vraiment en profondeur. Et en plus, moi, je pense que c'est toujours bien de se revoir, de rediscuter. On n'a pas forcément ces occasions-là de se voir plusieurs fois. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des petites prises de conscience. Je ne sais pas si c'est dans le montage, mais en tout cas, par exemple, moi, quelque chose qui m'avait marqué sur les interventions qu'on a fait avec les classes de 5e, c'est qu'on a commencé par un petit débat mouvant. On leur demandait est-ce que vous pensez, par exemple, avoir eu des comportements racistes? Si oui, aller à gauche, sinon aller à droite. Donc évidemment, tout le monde va à droite, personne n'a eu de comportement raciste. Et après, la question d'après, c'est est-ce que vous avez déjà fait des blagues racistes? Et une grosse partie des élèves disent oui. Donc du coup, ils n'associent pas le fait que faire une blague raciste, ça fait partie des comportements racistes. Et que bah, du coup, évidemment, parce que, encore une fois, c'est des vannes, c'est avec ses copains, le copain racisé potentiellement, il va rigoler avec elle. Donc voilà, il y a quand même des petites prises de conscience. Et après, je pense aussi, enfin moi, quelque chose qui m'avait marqué la dernière fois, c'était de la part d'élèves qui peuvent vivre du racisme, des premières réactions souvent qui sont dans la protection, d'en rigoler, de mettre à distance, de eux-mêmes faire des blagues racistes alors qu'ils sont racisés. Et après, quand on creuse un peu, de dire, bah en fait, moi, c'est vrai que dès que je dis que mon papa, il est portugais, qu'on me dise que forcément, il construit des murs. Bah, en fait, du coup, j'ai un peu honte de mon papa. Mais ça arrive dans un second temps. Donc, de dire, en fait, d'avoir le temps de discuter, ça permet aussi, après, aux autres élèves d'entendre, bah, vous voyez, en fait, quand vous faites ces blagues, c'est pas méchant. Peut-être qu'il va rigoler sur le moment, mais en fait, du coup, ça va impacter sa relation et peut-être le lien qu'il a avec son père, comment il le perçoit. Et dès qu'on a un petit peu le temps de détricoter, il y a quand même des choses qui sortent. Et je pense que bah, ça. Ça a des effets. Après, je ne sais pas si ça change les comportements, mais en tout cas, ça permet de réaliser que toutes ces petites... Et du coup, ça marche surtout. On essaie de leur faire aussi faire des liens avec le sexisme, voilà, tous les stéréotypes qu'on a sur le genre, tous les stéréotypes qu'on a sur la sexualité. Et voilà, tous ces ponts-là, j'ai l'impression qu'ils arrivent à le faire. Et ce qui était bien au collège, quand on a fait l'intervention, c'est que c'était une journée sur toutes les discriminations. Donc, on a un peu traversé du coup les questions de genre, les questions de race, les questions de sexualité. Et donc je pense qu'ils ont réussi à faire des ponts, et je pense qu'à partir du collège, en tout cas, c'est sûr que ils sont en capacité de comprendre, pour le coup, et de ce que c'est que le racisme. Et je pense que du coup ils sont en capacité derrière de faire peut-être un peu évoluer leur comportement, même si moi je suis aussi convaincue que les parents, les professeurs, voilà, enfin les adultes référents sont quand même les premières personnes qui doivent pas faire passer ces messages là et que c'est très compliqué de demander à un enfant d'arrêter de faire des blagues, par exemple, sexistes ou racistes, si plein d'adultes autour d'eux en font.
Oui, puis la documentaliste du Collège de Saint-Jean n'est pas là, mais ça a été, depuis un an ou deux, une vraie volonté de sa part de travailler là-dessus, parce qu'elle entend beaucoup. Alors, on pourrait se dire, dans le Royaume, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées, donc pourquoi est-ce qu'ils utilisent des insultes racistes? En fait, c'est quand même les mots qui circulent dans la cour du Collège, mais comme des insultes homophobes, qui font circuler parce que c'est dans le langage courant, quoi. Et du coup, de remettre du sens sur tout ça. Ça me fait penser aussi à ce que tu disais avant, Johanna, où tu disais, pendant des années, on m'a fait des blagues ou des remarques sur ma couleur de peau, puis je voyais pas le problème.
J'en faisais moi aussi. Ouais. Enfin, quand tu disais on est tous un peu racistes, j'étais là, bah oui, moi y compris. Pendant hyper longtemps, je trouvais ça hyper marrant.
Des remarques qu'on te faisait.
Je relis mon agenda du collège où on se laissait des mots. Ah, mais c'est horrible ce que je... Ouais. Ça me faisait trop marrer.
Mais tu vois, ça me fait penser à toutes ces études qui circulent. Enfin, maintenant, c'est quand même connu scientifiquement, ou en tout cas en psychologie sociale, ou en, sur la question de l'estime de soi des personnes qui vivent des discriminations, alors que ce soit du racisme ou sur les questions LGBT ou sur le sexisme. Comment ça affecte psychologiquement, quoi, enfin, l'estime de soi. Puis je me dis, quand on est soi-même, enfin, quand on intègre soi-même, mais comme nous, par exemple, en tant que femme, on va intégrer les questions misogynes, quoi, enfin, comme étant normal. Comment on peut avoir une bonne estime de nous-mêmes. Et voilà, c'est prouvé comment les enfants racisés bataillent avec cette question d'estime d'elles-mêmes, quoi.
Je pense qu'une façon de s'en sortir avec ça, c'est justement de mettre à distance, enfin, en tout cas, de moi, ça a été ça, quoi, de mettre à distance
la stratégie.
Culture pas française. Métropolitaine, pas européenne, et avec du coup un autre sentiment de culpabilité maintenant, de me dire ah mais j'ai raté un truc, de pas assez vivre la culture de mon père avec ma grand-mère, avec parce que j'étais en mode non mais moi je suis pas comme ça, moi je suis métisse, je suis pas comme vous et tout, quoi.
Un truc avec chacun ses stratégies, quoi. Je vous propose d'écouter quelques paroles de jeunes du collège de Saint-Jean.
Est-ce que vous pouvez vous mettre là pour les personnes qui ont leurs deux parents d'origine étrangère, leurs deux parents ou deux personnes référentes avec qui elles vivent?
Deux parents, si tu as deux parents qui sont étrangers.
Moi, mon papa, il est d'origine portugaise. Et ma maman, elle est italienne polonaise.
Moi, elle est tunisienne et mon papa, il est martiniquais.
Vous pouvez vous mettre de ce côté si vous avez déjà subi du racisme. Et de ce côté-là, si vous n'avez jamais subi de racisme.
Et même si c'est pour rigoler
Même si c'est pour rigoler, en tout cas, vous avez déjà
subi du racisme. Il est blanc, c'est pas là. Ah oui, merde.
Alors maintenant, de ce côté... Les élèves qui ont déjà fait vivre du racisme à d'autres personnes et les élèves qui n'ont jamais fait vivre de racisme à personne. Alors, c'est chacun qui décide, hein. On balance pas les copains.
Est-ce qu'on a déjà dit du racisme?
Est-ce qu'on a déjà fait vivre, alors dit des choses ou fait des choses qui est du racisme, ou à l'inverse, on n'a jamais dit ou fait des choses qui véhiculent du racisme?
En vrai, je peux le remettre, c'est plus facile.
Mon père est portugais. On me demande si c'est lui qui a fait ma maison ou... Voilà. C'est souvent les Portugais qui font... qui sont maçons. Après, il y a aussi des Français qui sont maçons, mais c'est souvent les Portugais. Oui, alors, c'est pas toujours vrai. Les Portugais sont pas obligés de faire maçons. Ils peuvent faire autre chose. Bah, au fond, je rigole quand on me dit ça, mais au fond, c'est pas la même, je réagis pas pareil. Bah, un peu triste, un peu énervée et un peu de peine pour les Portugais, donc voilà.
Vous venez avec moi au CDI. Tout, et nous, on va aller dans l'autre salle.
Comment ça se fait qu'en 2026, il y a encore ces choses-là qui se véhiculent? Oui.
Les stéréotypes, c'est comme des rumeurs. C'est les rumeurs, enfin les stéréotypes sur les juifs, les préjugés sur les juifs, ça vient surtout de quand Hitler était dictateur en Allemagne. Il a, j'ai pas des bons mots, mais il a enfermé les juifs dans des camps de mise à mort et des camps de concentration. Et souvent ça vient de là, se méfier des juifs, tout ça, bah c'est pas vrai, mais... c'est la rumeur qui a circulé quand Hitler, il était au pouvoir de l'Allemagne.
En tout cas, toi, tu me dis, si je me trompe, c'est qu'il y a des événements historiques qui font que des choses se sont ancrées. Pour moi, ça peut venir même bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, mais on peut déjà partir de là. Bah, un mélange de stéréotypes, d'imaginaires qu'on a, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, des imaginaires collectifs qui font qu'on se transmet des choses d'ordre discriminatoire ou oppressante envers des catégories de personnes. Et dans ces catégories de personnes, aujourd'hui, ben voilà, on parle des juifs, des personnes noires, ça a été dit, des personnes d'origine maghrébine, en tout cas qui vont subir un racisme qui va se répéter de manière un peu systémique, comme s'il y avait un petit rouage de on se transmet ça de génération en génération. Et alors, du coup, pourquoi dans un espace tu les fais ou tu les dis les blagues et dans un autre non? Pourquoi avec les copains oui et pas avec la famille?
Bah, du coup, comme je l'ai dit, parce que la famille aussi elle va m'engueuler. Et avec les copains, parce qu'en fait, avec les copains, pas dans l'ensemble de l'établissement, mais en dehors, je sais qu'on est libre avec les copains. Et...
Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'animation qu'il y a eu avec Fatou et Charlie aujourd'hui?
Bah, c'était bien, c'était... Bah, ça nous a fait comprendre aussi parce que c'était un peu plus le racisme ou des trucs comme ça.
Est-ce que tu savais ce que c'était que le racisme avant aujourd'hui?
Oui, je savais, mais ça...
C'est plus développé.
Ouais, on a pu parler plus de ce que c'était ou des trucs comme ça.
Et est-ce que vous comprenez qu'est-ce que les gens qui vivent du racisme ressentent?
Oui. Je pense qu'ils ressentent
de la tristesse et de la colère surtout.
Si ça revient très souvent quand même, qu'ils se font beaucoup insulter ou des trucs comme ça, je pense qu'ils peuvent ressentir plus de la tristesse mais de la colère, mais ils savent pas trop comment faire.
Et vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a des blagues racistes au collège?
Un peu, mais ça va.
Oui, quand même, oui.
Genre quoi, est-ce que vous pouvez m'en dire? Des trucs que vous avez déjà entendus?
Sale bougnoul.
Ouais, souvent ça.
Ouais, souvent très même.
Ça veut dire quoi, bougnoul?
Noir.
Non, mais c'est une personne maghrébine.
Ok, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on insulte de sale bougnoul alors?
Je sais pas.
Un bougnoul, c'est pour dénigrer les personnes,
les Arabes.
Parce que...
C'est un mot qu'on utilise pour dénigrer les gens, mais on ne devrait pas l'utiliser.
Voilà.
Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas l'utiliser?
Parce que c'est pas très très gentil.
C'est
pas cool.
C'est du racisme un petit peu.
Seulement un petit peu?
Non.
Beaucoup.
Oui, non mais...
Extrêmement beaucoup.
C'est un mot comparé à d'autres qu'on utiliserait plus fréquemment, mais qui est autant gros que les autres.
Ouais, c'est vraiment pas...
Bien, mais le scientifique.
Bon, allez, moi je...
Et est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de personnes arabes dans le collège?
Oui.
Non, pas beaucoup. Pas beaucoup.
Alors pourquoi est-ce qu'on utilise sale bougnoul alors qu'il n'y a pas beaucoup d'arabes dans le collège? C'est bizarre, non?
Aucune idée. C'est bizarre.
Toi, tu trouves qu'il y a du racisme au collège?
Oui, beaucoup. Même s'il est minimalisé, en fait, il y en a beaucoup, en fait.
Moi, je ne sais pas comment dire, mais il y en a, je pense, ils le pensent ou ils ne le disent pas. Ou il y en a, ils le disent entre potes et tout, mais sans le dire à la personne concernée.
Il ne faut jamais se moquer des autres, même s'ils ont un physique différent que nous.
Et est-ce que c'est important, les animations comme ça, que Fatou et Charlie soient venus ce matin?
On peut dire ce qu'on ressent, on peut dire ce qu'on n'a jamais dit, aux personnes. On peut ne pas dire ce qu'on a vécu, voilà. Et là, on peut le dire aux adultes, on peut leur parler, tout ce qu'on a ressenti quand on a eu des blagues racistes, ou voilà.
On se rend compte, en fait, que des fois, des blagues qu'on croirait être naturelles ou des trucs qu'on croirait être pas méchants, en fait, ça peut être complètement raciste. Et aussi, ça fait les gens comme ça, avec qui on parle et tout, comme des intervenants comme vous et tout, ça nous fait voir et tout ce qui est raciste et pas raciste.
Alors voilà pour ce petit extrait de quand je suis venue au collège suivre vos animations. C'est vrai que vous insistez pas mal pour remettre aussi en définition c'est quoi un stéréotype, c'est quoi un préjugé, c'est quoi une discrimination. Du coup, ça c'est toujours bien, même dès la cinquième, de voir ça. Et il y a à la fin, quand je demande est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de racisme au collège, c'est une des seules gamines noires de sa classe. Qui a eu quand même l'occasion au cours de ces animations-là. D'ailleurs, elle était assise juste à côté de Fatou. Je pense que ça lui a fait du bien, cette animation, de pouvoir dire « En fait, c'est pas facile. Vous faites des blagues et vous vous rendez pas compte. » Et j'ai l'impression que Fatou, elle a quand même réussi à soutenir sa parole, que ça lui a fait du bien. Voilà, donc peut-être... ça peut faire le lien aussi avec le fait que vous cherchez des témoignages de jeunes. Vous lui avez fait la demande, en tout cas.
Ouais, et après c'est important de préciser justement dans ces ateliers que forcément les personnes ne le reçoivent pas de la même façon. On parle de racisme et il y a des personnes dans la classe qui ne vivent pas de racisme et d'autres qui vivent du racisme. Donc c'est toujours un jeu un peu d'équilibre et faire attention aux impacts que ça peut avoir. Et effectivement, je l'ai déjà dit, mais du coup, je leur dis que ça sera diffusé à la radio aussi également. On a la recherche de témoignages de jeunes donc enfants ou adolescents, adolescentes qui voudraient, qui pourraient vouloir parler de ce qu'ils et elles vivent. Nous, évidemment, on accompagne cette démarche. Le montage, je le précise, est toujours réécouté. Il n'y a pas forcément une photo qui va avec. Voilà, on fait tout pour que ce soit le plus confortable pour la personne. Et évidemment, c'est en accord avec les parents. Donc voilà, si vous avez dans votre entourage peut-être des personnes qui auraient envie, en tout cas, d'en parler, nous, on a envie que ça vienne d'une démarche aussi d'avoir envie de visibiliser son vécu, et ben, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à la radio.
Alors, soit directement à Radio Saint-Ferréol, soit si vous voulez passer par radioroyant@gmail.com, on relayera, bien
nos
sûr.
Camarades de Radio Royan.
Pour clôturer ce plateau radio, on avait envie de parler de perspectives et de ressources parce que y a des choses qui existent pour continuer à se tenir informés. Alors déjà, on organise les saisons décoloniales toutes les saisons, donc c'est l'occasion d'entendre parler des personnes qui ont travaillé ces sujets-là, de voir des spectacles aussi parce qu'on essaye qu'il y ait toujours des formes artistiques. La prochaine sera en septembre. On vous tiendra informé. Il y a des initiatives comme ça sur notre territoire. Il y a aussi des choses à lire, des podcasts à écouter. On ne va pas vous faire une liste là exhaustive, mais en tout cas, il y a vraiment.
On pourra mettre des liens peut-être sous
l'article. On mettra dans l'article sur Radio Royan. Mais il y avait peut-être des choses dont tu avais envie de parler, Charlie.
En tout cas, nous dans le Crétois, il y a depuis 2 ans, 3 ans, il y a des groupes de personnes blanches qui se réunissent régulièrement pour travailler sur. Leur suprématie blanche et leur blanchité.
Tu peux en dire 2 mots sur comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que quand je dis ça, moi je le dis souvent, mais dans le Crétois, ils font ça. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent, mais c'est comme s'il y avait des groupes d'hommes qui se réunissaient, qui voient tout de suite un peu que ça alerte, quoi, en disant, mais se réunir entre blancs pour parler de la blanchité, est-ce que ça risque pas de alimenter ce truc de fragilité blanche, mais il me semble que vous basez sur des ressources assez claires. Enfin, il y a un cadre, quoi.
On essaie de mettre un cadre justement pour pas favoriser ça, même si évidemment c'est forcément à l'œuvre. Ça, il n'y a pas de doute que il y a forcément de la solidarité blanche puisqu'on est en mixité entre personnes blanches. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup. Donc, je fais partie de ces groupes-là. Et à l'époque où on était, quand ça a commencé, en tout cas, on a beaucoup travaillé sur un livre que pour le coup j'ai envie de partager qui s'appelle Moi et ma suprématie blanche de Laila Saad. Et qui est vraiment un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, je vois des personnes qui acquiescent ici dans la salle, qui accompagnent chapitre par chapitre chacune qui lit le livre à se poser des questions sur ses biais racistes, sa fragilité blanche, son mutisme, etc. Et donc on partait vraiment tout le temps de ça, et après pour aussi travailler des situations de la vie concrète, parce que le but c'est pas de connaître par cœur tous les concepts antiracistes, mais de ne jamais les appliquer dans la vie. Le but après c'est d'aller aussi se confronter à des situations qu'on a vécues, où on a pu avoir des comportements racistes, ou en observer, en être témoin, et ne pas agir, ou ne pas mettre en place des conditions pour que ça n'arrive pas. Donc voilà, donc c'est pas un groupe parfait, il est plein d'imperfections, mais je pense que c'est mieux que ne pas exister. Et s'il y en a certaines d'entre vous qui veulent le rejoindre, pareil, vous pouvez écrire à la radio et on pourra faire le lien.
Oui, parce qu'il y avait eu un début de groupe sur la blanchité aussi dans le Royan, il y avait quelques personnes qui se réunissaient, je sais pas si ça continue, je leur demanderai. Mais voilà, en tout cas, d'avoir en tête de se poser toujours la question, pas en voulant se juger ou se culpabiliser, mais plutôt se dire avec assez de responsabilité, plutôt une position responsable qu'une position coupable, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je pense si je regarde mes biais racistes, qu'est-ce qu'il y a encore là ? Mais ça vaut pour l'antisémitisme qui est un racisme. Est-ce que j'ai pas un peu des biais antisémites ? Est-ce qu'il y a pas des choses que je me dis encore avec honnêteté, quoi, sincèrement. Mais c'est pareil sur le sexisme, sur l'homophobie. Est-ce que j'ai pas des résidus de choses, même si je suis une bonne personne et que je veux le bien autour de moi, est-ce qu'il y a pas des choses qui traînent encore et que je peux aller regarder avec honnêteté, quoi. Toi, il y avait une ressource que tu avais envie de partager, Johanna ?
C'est dans le même courant, mais moi je pensais niveau choses à écouter vu que qu'on a la radio. Il y a un podcast que j'ai trouvé chouette il y a quelque temps. C'est Arte Radio qui produit une série de podcasts qui s'appelle Vivant heureux avant la fin du monde, par une documentariste qui s'appelle Delphine Saltel et qui travaille sur plein de sujets de société. Et donc récemment, elle a sorti un épisode qui s'appelle « Ouvrir les yeux sur l'ignorance blanche ». Et où elle invite Amandine Gay, qui est une écrivaine, autrice, documentariste, qui a écrit un chouette bouquin l'année dernière, qui s'appelle « Vivre libre », qui parle beaucoup de sa condition de femme noire et aussi de sa découverte d'un auteur dont tu parlais tout à l'heure dans l'extrait. Là, Charles Mills, c'est un auteur afro-américain qui écrit, si je ne me trompe pas, à la période de Rousseau et qui écrit sur l'ignorance blanche et sur le fait que dans le contrat social et tous ces moments, ces choses qui sont pensées à l'époque des Lumières, il y a un gros oubli sur les questions de la race. Et donc Amandine Gay va un peu faciliter l'accès à ce texte qui est un peu ancien et puis le podcast va encore plus faciliter l'accès à ces pensées-là. Donc voilà, moi c'est un peu... les choses récemment qui m'ont inspirée.
Marqué, ouais. Et par exemple, demain, avec les enfants, ils ne le savent pas encore, mais on va utiliser aussi des extraits d'Arte Radio sur... c'est des petites choses à destination des enfants qui s'appellent « Le jour où ». Et il y en a une qui s'appelle « Le jour où j'ai décidé de laisser mon afro » ou quelque chose comme ça. Et l'autre qui est « Le jour où un truc sur le pays d'origine ». Je me rappelle plus exactement le titre, mais voilà, c'est des petits extraits où ce sont des enfants qui parlent et ça va être notre support pour travailler avec les enfants, voir comment ils réagissent. Puis on va aussi ramener des albums jeunesse parce qu'il y en a toute une série qui est intéressante.
C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en 2026, petit ou grand, on a accessible beaucoup de ressources gratuites et ou payantes, mais quand même beaucoup de ressources sur Internet, via des podcasts, via des textes, via des BD. Voilà. Donc je pense qu'on peut tous, en tout cas si on a envie de commencer un peu à s'éduquer, c'est peut-être moins compliqué que ça a pu l'être il y a quelques années où on n'avait pas autant de ressources disponibles.
Et pour finir, on avait quand même envie d'ouvrir à vos réactions, parce que ça fait quand même une heure écart que vous nous écoutez. Peut-être ça vous fait réagir, peut-être vous avez des questions. Alors si c'est vraiment sur l'expo, c'est peut-être plus Charlie sur comment vous avez travaillé ou quoi, ou sur le lien aux personnes, je ne sais pas, ce sera plutôt Charlie qui répondra. Mais si vous avez des réactions, je sais que dans la salle, il y en a qui sont enseignants, enseignantes ou bénévoles d'associations. Si vous avez envie de réagir à tout ce qui vient de se dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse puisqu'il n'y a pas de questions. Voilà, on laisse un micro. Je vais,
comme j'étais directement nommée en tant qu'enseignante, juste, on a parlé du racisme mignon. Et moi, en tant qu'enseignante, ce que je vois, c'est pas forcément mignon aussi comme racisme. Donc moi, ça m'a aussi un peu évoqué ça, que je travaillais dans un collège où il n'y a pas beaucoup d'enfants racisés non plus. Et les peu d'élèves racisés, ils en prennent vraiment plein la tronche, en fait, de la part de leurs camarades. Et c'est pas mignon et ça les fait pas toujours rire, quoi. Enfin, moi, ça me touche beaucoup et on est assez vigilants dans le collège, justement, à ça. Je trouve qu'ils ont vraiment du soutien, mais... ils sont vraiment isolés, quoi. Enfin, voilà, c'est juste ça.
Mais c'est des blagues, c'est des remarques sur
c'est
leur...
C'est des insultes. Non, des insultes. Ça y va. Il y a sûrement des blagues et tout, mais et les adultes, on ne les entend pas forcément. Enfin, des fois, c'est les élèves concernés qui nous les rapportent. Et donc, ça se passe... C'est assez insidieux, parce que ça va pas se passer dans la classe, ça va se passer dans un endroit où, où les adultes ne sont pas présents. Et ça nous est rapporté, parfois. Pas tout le temps.
Et ils peuvent dire ce que ça leur fait, ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils attendent des choses de vous ? Enfin, tu vois, je me dis.
Ils attendent des réactions, ouais, bien sûr, de notre part. Donc en général, quand ils viennent rapporter une parole, c'est qu'ils sont très en colère et qu'ils ont eu une. Souvent, ça a lieu parce que on leur tombe dessus parce qu'ils ont une réaction violente ou ils vont avoir eux-mêmes insulter quelqu'un. Et donc forcément, là, ça, on va le voir et on va leur tomber dessus. Et donc là, c'est là qu'ils vont dire « Non, mais en fait, il m'a dit ça à l'arabe. » Et donc là, on va pouvoir un peu détricoter et avoir une réaction plus posée et tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est loin d'être mignon, je trouve. Moi, des fois, et en fait, aussi, on se faisait la réflexion avec des collègues que ça prenait beaucoup, de plus en plus de place, en fait, et que c'était comme dans la société, on a un racisme décomplexé, mais on le retrouve aussi parmi les élèves au collège, quoi.
Le constat dans l'équipe éducative, c'est que c'est prégnant.
Ça devient assez prégnant, et il y a aussi beaucoup de syndicats qui s'emparent de cette question-là en organisant des formations antiracistes, et il y en a eu une récemment, là, assez large. Et voilà, donc c'est pas du tout... On a l'impression que... Enfin, on a parlé du mignon, mais on a l'impression que que c'est bon, on a commencé à s'éduquer et tout ça, mais en fait, on est quand même dans une société qui est ultra raciste et ça passe par tous les réseaux sociaux et en milieu rural comme ailleurs, quoi.
Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, même s'il n'y a pas beaucoup de gamins racisés dans le collège.
Quoi. Et ouais, ils se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Ou deux.
Bon, ça, c'est une autre ressource aussi, hein, s'il y a des enseignants, enseignantes qui nous écoutent. Les formations syndicales, il y en a sur l'antisémitisme, il y en a sur l'islamophobie, il y en a qui sont vraiment de très grande qualité pour avoir vu les intervenants et avoir vu les amis enseignants qui y assistent. C'est vraiment des fois deux jours, trois jours de réflexion autour de l'antisémitisme ou de l'islamophobie ou du racisme en général. Donc voilà, c'est une ressource, hein, si vous avez accès à ça.
Alors, à propos de racisme, j'étais enseignant aussi, donc moi je suis à la retraite, et j'étais en Seine-Saint-Denis, hein, donc très cosmopolite, et les élèves ils avaient intégré le fait d'être racisés en se moquant vraiment d'eux-mêmes. En étant raciste, on verra même carrément par des blagues racistes. Des exemples, deux élèves d'origine portugaise, il y en a un, je lui dis, mais ça va pas, Manuel, ça va pas ce que tu fais, quoi. Et son copain qui lui dit, mais monsieur, vous savez, alors qui me dit, mais vous savez, monsieur, pourquoi ses parents l'ont appelé Manuel ? Je dis, non. Parce qu'il ne pouvait pas l'appeler intellectuel. Voilà. Un autre exemple. Mohamed, ça ne va pas ce que tu m'as fait là. Non, non, ça ne va pas. C'est pas comme ça que tu fais. Si tu fais ça, ça va se poser. Ouais, mais monsieur, c'est du travail d'arabe, vous savez bien. Mmh. Et donc voilà, donc ils l'ont totalement intégré, le fait, au point de faire des blagues racistes vis-à-vis d'eux-mêmes. Et je trouve ça vraiment, c'est. Bon, je ne disais rien parce que bon, c'est leur truc. Par contre, c'était très prégnant, c'était le sexisme était. Hein, vraiment, là, c'était prégnant partout. Mmh. Et ça, vraiment, parce que j'étais surtout avec des garçons. Il y avait beaucoup de garçons. Et les rares fois, il y avait des filles, vraiment, les pauvres, elles étaient vraiment... Quand j'étais là, bien sûr, ils disaient rien. Ben, je ne voulais pas montrer qu'ils étaient racistes ou sexistes, plutôt. Mais c'est vrai que, de temps en temps, les filles me racontaient des blagues. Enfin, pas des blagues, mais
des remarques.
Des remarques qu'elles avaient subies, quoi. Mmh. Et après, même, je ne savais même pas comment réagir, comment on disait ça, parce que qui accusait, enfin bref, qui allait voir qui. Puis je reconnais que je n'étais pas formé pour ça non plus. Hein. Mmh. Voilà, donc...
Oui, donc on revient sur la formation, effectivement, enseignante. Mmh. Et puis aussi sur le fait que, ben, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur le fait d'être... C'est aussi des mécanismes de défense ou de protection. Mais les femmes font des blagues misogynes vraiment horribles, hein, en fait. Donc c'est pareil, oui. C'est-à-dire, et que du coup, quand on vit dans une société qui est patriarcale, qui est sexiste, et qui, avec cette suprématie blanche qui, voilà, que le post-colonial, c'est sûr qu'on va intégrer des choses assez dures sur soi-même, et qu'on va les répercuter. C'est bien pour ça que c'est compliqué.
Et pour terminer, je me rappelle quand même que quand j'étais gamin, j'étais à l'école primaire, les livres d'histoire ou de géographie, quand même, il y avait le concept de race, avec des belles images. Le blanc, pas mal. Le jaune, ouais, ça. Et le nègre, négroïde. Mmh. Vraiment, avec la forme négroïde. C'était ça, là, à l'époque. Ça existait déjà. Alors, je ne sais pas à quelle époque ça a disparu des livres, mais moi, j'ai eu ça.
Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Teresa, tu voulais prendre la parole ?
Bon, parler de racisme, c'est triste pour moi. Et moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup de racisme, et même dans ma famille. Et quand vous dites le racisme invisible, bah, le racisme caché, je peux comprendre comme ça. Mais les gens, parfois, ils nous montrent les belles visages, ils sont sympas, ils sont gentils avec nous, mais derrière, ils se gardent beaucoup de racisme. Le racisme, c'est pas jusqu'au collège, c'est pas jusqu'au travail, dans les jours de tous les jours, nos affaires. Mais ce qui me rend triste, c'est au maternel.
À l'école maternelle, tu veux dire ?
Exactement.
Ah oui. Mmh.
Ma fille, elle a vécu beaucoup de racisme à partir de maternelle, d'école maternelle. Mmh. Et c'est douloureux. Et je ne sais pas si je vais avoir du temps pour expliquer tout. Et je ne sais pas si je vais réussir à tout expliquer. Mais c'est triste quand les gens ils nous disent « Ah, même quand tu es noir, ça ne change rien quand tu laves tes mains. Mmh. » Tu peux laver tes mains, mais tu es toujours sale. Mais...
Ça, c'est des remarques qu'on lui dit à elle, c'est ça ?
Non, j'ai dit les gens, par exemple, ils disent ça à moi.
À toi, ah oui.
Oui, moi je travaille chez les gens, je rends service chez les gens, je suis aide à domicile. Mais je passe pour les situations que vous n'avez pas une idée. Les gens, ils te jugent à partir du moment que tu frappes la porte, ils ouvrent la porte et tu vois, tu es noir. Oh, mais il n'y a pas des gens blancs.
Ils te le disent comme ça.
Il n'y a pas des gens blancs. Les gens blancs en France sont finis. C'est triste, ça. Et quand tu fais des choses, les gens ils te suivent derrière et te demandent si tu as pris quoi, si tu as un sac, tu portes quoi. Et regarder notre couleur de peau, et ils nous jugent tout de suite comme les voleurs. Ils nous jugent tout de suite comme les sauvages. Les gens qui me disent que je suis civilisée en France, mais je me demande toujours, c'est quoi ça, être civilisée? Et je ne comprends pas. Mais parce que la façon dont je comprends d'être civilisée, je ne suis pas civilisée en France. C'est quoi civilisation? Je ne comprends pas. Et il y a des gens qui me disent, vous êtes là, pourquoi? Ici, il n'y a pas de bonne vie. Parce que je ne sais pas qui a mis dans la tête des gens que l'idée des gens qui émigrent, c'est pour venir chercher la bonne vie. Oui, peut-être il y a des gens comme ça, mais pas forcément tous. Il ne faut pas juger les gens quand ils le voient comme ça et tu juges tout de suite que cette personne va voler, va prendre, va profiter, tout ça. Mais le racisme, ça me rend malade maintenant. J'ai jamais été insultée dans ma vie comme je suis insultée maintenant. Je commence à comprendre pourquoi ma petite, ma fille, elle venait me demander, maman, aidez-moi à me voir au miroir pour voir si je suis moche. Je ne suis pas moche, je suis comme je suis. Et les gens ne comprennent pas que le monde, même les animaux, ils ont des couleurs différentes. Et là maintenant, je me demande, le racisme commence d'où? Les enfants à l'école maternelle, ils sont petits. Ils viennent d'où? Les enfants, ils naîtront pas avec le racisme. Mais je pense que même à l'école, au lycée, au collège, je suis désolée, mais je veux lui dire, les professeurs, les responsables et tous les gens qui travaillent disent qu'ils font la lutte contre le racisme, entre guillemets, parce qu'ils font le privilège. Moi, j'ai subi ça avec mes filles. J'ai une fille qui est passée au collège à Saint-Jean-Royan. Elle a passé pour plein de situations. Je n'ai jamais vu un prof à dire non dans la classe. Non. Soutien. Moi, je n'aime pas dire les gens noirs, les gens blancs, parce qu'il n'y a pas de gens blancs. Ils n'ont pas la couleur blanche. Il n'y a pas de gens noirs. Je ne suis pas noire. Je suis foncée et vous êtes clair. On a la peau foncée. Il y a des gens qui ont la peau claire. Pas noire, parce que noire, regardez, vous avez des vêtements noirs. Moi, je ne suis pas comme ça. Hey, quelqu'un qui a des vêtements blanches, ils ne sont pas blancs. Mais dans le collège, dans l'école primaire, dans le lycée, ils disent qu'ils soutiennent les étudiants. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, ils disent « Ah non, il faut pas faire ça », mais c'est juste que la seule réaction, parce que ça se fait après rien du tout. Parce qu'ils ont dit « Oh, ne dis pas ça, c'est pas ça, c'est le racisme, c'est pas gentil de dire ça, c'est discrimination », et ça finit là. Ça, c'est la lutte contre le racisme. la discrimination.
Toi, tu aimerais qu'il y ait des choses plus fortes qui soient posées par les enseignants, qu'il y ait des réactions plus...
Ça, je parle de façon générale. Parce que là, je ne suis pas étudiante, comme les gens me disent que tu n'as pas fait des études pour ça que tu nettoies les sols des autres. Je ne parle pas de ça, mais moi, j'ai passé aussi pour ça, les gens. Je passe ça dans mon travail. La seule façon que je vois, ils me changent de bénéficiaire, mais je ne vois pas aucun soutien. Je ne vois pas solution pour la lutte contre ces situations de racisme, discrimination. Ben, c'est douloureux. Et là, maintenant, j'ai des problèmes de santé, je peux dire ça. J'étais avec une conseillère de France Travail qui m'a demandé. Elle m'a dit, mais Teresa, vous avez fait des études très... supérieure et vous avez beaucoup d'expérience que moi-même je l'ai pas. J'ai pas fait des études comme vous, mais vous avez toutes ces expériences. Vous avez où toutes ces expériences dans votre pays? Je dis oui, c'est ça. Et ici en France, vous avez appris quoi? Je dis à être dépressif et prendre cachet pour lutter contre ma dépression. J'ai jamais pris un cachet pour dormir avant, mais là, je le fais. Parce qu'il faut toujours calmer ma tête pour pas, je sais pas, c'est peut-être perdre la tête contre les gens qui me discriminent, contre les gens qui m'insultent, contre les gens qui font tout ce qu'ils font, sans avoir le soutien. Il faut peut-être chercher un soutien. Et les médecins, comme ils ont dit, nous, on donne juste le médicament. Et j'essaie de faire ça. Bon, merci. J'ai plein de choses à vous raconter, mais la radio Royan, il va rester jusqu'à...
Bah, on va prendre le temps de boire un verre et que tu continues à raconter, si tu es d'accord.
Le racisme caché, il est bien caché dans le Royan. Ouais. Je vous assure, avant, je ne savais pas.
Ouais.
Je ne savais pas. Mais bon.
Merci pour tout ce que tu dis, Teresa. C'est précieux qu'on réalise et que c'est des choses que tu vis dans ton quotidien. Et ce n'est pas facile à partager, mais c'est super que tu nous dises tout ça.
On est en plein 2026. Où commencer à lutter contre le racisme? C'est ça la question. Où? Parce que même dans les associations, il y a du racisme. Ce sont des adultes. Et c'est les adultes, ils sont malades. Et les enfants, ils vont être... Comment? Moi, je pense que le racisme, c'est une maladie. Je pense ça. Parce que les gens qui n'acceptent pas la diversité, les gens qui ne comprennent pas que le monde, il est mélangé. Ben, les gens qui vont peut-être changer la nature. C'est la maladie, ça. Et je crois que pour lutter contre cette maladie, je demande où commencer. Où commencer? Parce que moi, je viens de vous dire qu'à l'école maternelle, ça existe aussi. Et je me souviens bien que ça a commencé au moment que la maîtresse elle voulait parler des couleurs. Elle n'a pas cherché la façon de donner des exemples de couleurs, sinon dire, regardez votre collègue, quelle couleur est là? Mais j'étais prof, moi. Moi, j'étais prof à l'école primaire. On avait des... comme on dit, en Afrique. Je ne sais pas si en Afrique, c'est Afrique, c'est un pays, c'est un continent, je ne comprends pas. Parce que les gens, ils me disent, vous, en Afrique.
Tu représentes toute l'Afrique.
Ah bah oui. Les gens disent, vous, à l'Afrique. Moi, j'étais prof en Angola, école primaire, et même à l'école, à l'université. Quand je travaille avec les enfants pour parler de couleurs, plus simple, on travaille avec la nature. Quand on parle des situations de diversité, on va chercher plusieurs objets, des choses qu'on peut trouver à la nature pour montrer aux enfants. Mais les profs, les maîtresses en France, elles montrent l'enfant différent dans la classe. Regardez cet enfant, quelle couleur elle a. À partir de ce jour, les camarades disent « Oh, mais elle n'est pas comme nous, elle est moche. » À partir de ce jour, ça a commencé. Ah, mais là, c'est des montres agressives. Mais les gens vont me dire, Thérèse est folle. Mais non. C'est la réalité qu'ils ont vécue ici. On peut dire en France, mais non, à Saint-Jean-Royan, dans autour de Royan.
Bien sûr.
Qu'on vit ça. Avant, moi, je ne savais pas que les gens ils sont très, très, très durs à parler. Mon mari me dit, tu regardes toujours les gens avec les beaux yeux. Mais là, maintenant, je commence à regarder les gens avec, comment je peux dire, l'insécurité, si je peux dire, avec... j'ai peur. Je regarde les gens toujours, je dis, mais cette personne, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais elle sourit, mais peut-être c'est pas vrai. On va lutter contre la discrimination, le racisme. On va commencer où? C'est ça ma question.
On commence à l'intérieur de soi. C'est un peu ça qu'on essaie de dire ce soir. On commence chacun à l'intérieur de soi, puis avec les enfants, puis avec les adultes, puis partout, en fait.
Bon, merci.
Je ne sais pas s'il y a d'autres envies de réaction. Ou peut-être on va boire un verre et continuer à discuter de tout ça. Merci beaucoup d'être venu là ce soir et on s'arrête là. Merci Charlie, merci Johanna.
Merci à toi.